mon téléphone a joué une courte sonnerie pour m'aviser de l'arrivée d'un texto. J'engloutis ce qui restait de mon beigne pour me libérer la main. Zach vient de voir son vélo. Oups! Bonhomme grimace. J'ai essayé de répondre, il va s'en remettre, tout en gardant les yeux sur la route. J'ai écrit « Ich va s'en remettre ». Après un instant d'hésitation, j'ai conclu que c'était suffisamment ressemblant et j'ai envoyé. J'ai heurté quelque chose. Il y a eu un gros coup sourd et le truc a glissé et rebondi sous la voiture. Je n'ai pas vu ce que c'était, j'ai lâché mon téléphone, j'ai agrippé le volant et j'ai freiné dans un grand crissement de pneus. Le stress m'a donné une bouffée de chaleur et m'a fait monter le cœur au bord des lèvres. J'ai prié pour que ce ne soit pas un enfant. J'ai regardé dans le rétroviseur et ce que j'y ai vu était une bonne nouvelle. La chose avait du poil. Un petit pas pour l'homme, mal élevé, fâché noir, corax, stigmate et barbecue, morlante, trompé Martine. Autant de romans que signe Stéphane Dompierre, chroniqueur, directeur littéraire, auteur, scénariste, homme poulpe, quoi. Avant d'en arriver, par contre, à tous ces beaux projets bien aboutis, bien ficelés et dignes de vendre des milliers d'exemplaires, Stéphane avait eu tout un parcours. Aujourd'hui, il est venu nous en faire découvrir un morceau en nous lisant « Pour sauver sa peau », roman graphique hautement illustré, réalisé quelque part entre sa deuxième et sa troisième année de secondaire. Quand il m'a envoyé l'œuvre, 26 feuilles mobiles couvertes de son écriture soignée, de ses dessins multicolores et d'une nouvelle complètement bracadabrante mettant en scène un jeune Stéphane et sa gang d'amis, j'ai pas eu le choix de dire oui. C'était clairement le texte avec lequel on allait pouvoir se dire « faut bien commencer quelque part ». Alors sans plus de préambule, pour sauver sa peau.
Alors chapitre 1, jeudi soir, 23h17. Les deux hommes assis à l'avant de l'auto, une Chrysler, le baron, poussèrent ensemble un soupir de soulagement en voyant sortir les trois jeunes silhouettes du forum. Les deux hommes avaient l'air assez louches, l'un avec un feutre gris au bord des yeux et un imperméable du même gris qui faisait ressortir sa moustache rousse. L'autre, l'œil vif, les cheveux coupés en brosse, était vêtu d'un pantalon bleu trop large pour lui et d'un chandail rouge de marin à col roulé. Ce même homme alluma le moteur de l'auto et démarra, suivant les trois adolescents d'une distance respectable. « T'es sûr que c'est eux, Tony? » Tony redressa son feutre et expliqua « Ouais, Bill. » Le pliant, c'est Patrice Dufour, l'autre à sa gauche, c'est Jean-Philippe Abelli. Celui avec la chemise de chasse, c'est Stéphane Dompierre. Le comptillait. « Ouais! » se contenta de dire celui qui répondait au nom de Bill. Patrice ouvrit la porte du petit café et tous trois pénétrèrent dans l'établissement. Comme client, il n'y avait qu'un homme et une femme assis à une table et un homme accoudé au bar. Montréal, la nuit, n'avait rien d'extraordinaire. Ils décidèrent de s'asseoir à une table au fond de la salle. Jean-Philippe commanda 3 Coca-Cola et 6 croissants. Steph prit le premier la parole. C'était vraiment une bonne idée ce spectacle Plume Offenbach. J'en ai rarement vu des meilleurs. Moi je pense que j'irai le voir 15 fois sans presser de rajouter Patrice. Ils mangèrent lentement en se remémorant tous les spectacles de Plume qu'ils avaient vus jusqu'à maintenant. Un petit sourire apparut aux lèvres de Bill quand il vit Abelli se lever pour aller payer. Il y eut le bruit d'un cran de sûreté qu'on enlève sur une arme au moment où il sortit du café. C'était Jean-Philippe qui avait sorti du café le premier, car Stéphane bouclait sa veste de chasse et Patrice attachait son soulier. Les deux portières avant de la Chrysler s'ouvrirent en même temps et les deux bandits se jetèrent sur JP, qui n'eut pas le temps de faire un seul geste. Il fut ligoté et jeté dans l'auto par Tony, tandis que Bill ouvrait la porte du café. Steph n'avait rien manqué de la scène et s'exclama en voyant Bill qui se dirigeait vers eux. « Tiens, voilà Simbad le marin qui s'amène. » Il se retourna et vit tout de suite ce qu'il cherchait, un écriteau indiquant « Homme, men ». Son but était très simple, « Fuir ». Empoignant Dufour par le bras, il ajoute « Filons d'ici en vitesse ». La chance était avec eux. Dans la toilette, il y avait une fenêtre grande ouverte retenue par un bout de bois. Patrice s'y glissa, suivi de Steph. La nuit était noire, éclairée seulement par quelques lampadaires. Ils coururent droit devant eux et tournèrent à droite à la première intersection pour se mettre hors de la portée du fusil de Simbad le marin. Ce fut leur erreur. Devant eux se tenait un homme appuyé sur une Chevrolet Chevette, sourire aux lèvres et arme au poing. Un autre homme surgit derrière eux, muni d'une matraque. Il y eut deux « poc » sourds et ils sombrèrent dans l'inconscience. Stéphane rêvait qu'il était poursuivi par des croissants qui le criblaient de balles de fusil et dont l'un d'eux criait « Réveille-toi, Steph! » « Hein? » Stéphane ouvrit les yeux à demi. La première chose qu'il vit, ce fut Jean-Philippe qu'il secouait comme un défoncé. Il s'écria « Ok, JP, lâche-moi ou je te défonce. » Patrice dormait toujours. Ils décidèrent de le laisser dormir. Stéphane regarda sa montre. Nous étions vendredi 11h24 du matin. Steph inspecta ensuite la pièce où ils étaient captifs. Le mobilier était simple, une table, trois chaises et une lampe située à côté d'une porte en métal. Il n'y avait pas de fenêtre. La porte s'ouvrit sur un homme d'assez grande taille, vêtu d'un pantalon bleu et d'une chemise bleue, dont les manches étaient roulées jusqu'au coude. Il est escorté d'un autre homme dont les muscles roulaient sous un chandail brun à col en V, le même brun que ses pantalons. Celui-ci avait un magnum 357 au poing, mais on se demandait vraiment s'il en avait besoin pour impressionner. Les deux avaient une mine patibulaire, mais le plus grand avait l'air plus dangereux encore, car l'intelligence brillait dans ses yeux durs. Il prit la parole d'une voix ferme. « Eh bien les gars, je vais être direct avec vous, j'ai besoin de trois garçons pour accomplir le vol du siècle. » Tous les trois partirent à rire. « Ce vieux fou nous kidnappe, nous assomme, nous enferme et nous demande ensuite de l'aider à accomplir un vol du siècle. C'est trop drôle, » pensèrent-ils en même temps. L'homme ne broncha pas. Il devait avoir une bonne maîtrise de soi. L'autre, par contre, était rouge de colère. Il tira un coup de feu en l'air et les rires cessèrent. L'homme reprit. « C'est simple. Là où nous allons, il y a trois dispositifs d'alarme. Pour les débrancher, il faut passer par les conduites d'air trop petites pour nous. » Tony et Bill vous connaissaient pour vos exploits. Ils vous ont enlevé pour accomplir cette tâche. Je vous laisse y penser. Jack vous apportera des sandwichs et du jus. Je reviendrai à 2 heures. Si vous ne voulez pas collaborer, pars. Jack entra, déposa la nourriture et les trois bandits se retirèrent. Abélie Dufour semblait prêt à s'écrouler par terre. Stéphane, grand sourire aux lèvres, se leva et alla inspecter la lampe. Il s'exclama. Exactement ce que je voulais, c'est du 220 volts. Abélie, as-tu ton canif? Soudain, Patrice comprit. Il lui prêta le sien en disant d'une voix triomphante, Steph, t'es génial. Jean-Philippe avait aussi compris. Dompierre coupa le fil à l'extrémité de la lampe, après l'avoir débranché, et mit les fils électriques à nu. Il les fixa ensuite à la poignée de porte en métal. Ensuite, tous trois mangèrent de bon cœur.
Écoute, je t'interromps ici, Stéphane. Je pense qu'il va falloir... Il y a beaucoup, 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 beaucoup de matière.
Oui.
Et je pense qu'il y a déjà des points qu'on devrait commencer à aborder. D'accord. Pour bien comprendre comment ça amenait à ton écriture contemporaine. Déjà, moi, je ne t'avais pas découvert à travers cette œuvre-là. C'est plutôt à travers ta trilogie « Un petit pas pour l'homme »,« Mal élevé »,« Tromper Martine » que j'ai appris à connaître ton écriture. Mais... les liens sont nombreux.
Ah oui, hein?
Nombreux.
J'ai hâte de voir ça.
Ces œuvres-là. D'abord, on est dans une certaine forme d'autofiction. T'sais, le fait que tu as un personnage qui s'appelle Stéphane Dompierre nous donne pour indice qu'on est un peu dans l'univers de tes amis d'adolescence.
Oui, c'est tous les noms de mes amis, mais j'avais vraiment le meilleur rôle.
On dit de la plupart des auteurs qu'ils existent un petit peu à travers chacun de leurs personnages. Stéphane n'est pas du genre à laisser ses personnages pris dans une mauvaise situation. Il va leur faire trouver une mauvaise situation ailleurs.
J'ai l'air de l'ellipse aussi, hein, quand même.
Et ils solutionnèrent le problème. On se croirait dans les aventures de Rocambole, là, ouais. Des fois. Mais il y a des influences claires aussi à l'époque. Donc, je trouve que le scénariste en toi cherchait déjà à s'exprimer. Vraisemblablement, t'écoutais MacGyver?
Non, j'écoutais Chips.
Oh.
Avec les deux policiers qui... il y avait toujours des voitures qui volaient dans les airs. Puis quand ils se retournaient, tu voyais vraiment qu'il y avait tout vidé en dedans. Là, il n'y avait plus de moteur, rien. Puis tout ça explosait tout le temps. Fait que pour moi, une voiture qui n'explose pas dans une fiction, ça se pouvait pas. Là.
D'ailleurs, ne vous attachez pas trop aux deux premières voitures qu'on a pu rencontrer.
Ouais.
Je ne veux pas vous dire qu'est-ce qui va leur arriver exactement, mais ils ne se rendront pas à la fin de l'histoire, là, non plus que les 8 prochaines.
Ce texte-là est plus long que la moyenne qu'on s'attend à recevoir à l'émission. Mais ça valait trop la peine, là. On était dans une trop belle lancée dramatique. On s'est permis des coupures un peu plus loin, mais là, on vous donne le chapitre 2.
Vendredi, 14h05. Stéphane avait fignolé la porte de façon à ce que la porte soit ouverte pour que la décharge électrique fonctionne. Ainsi, il n'aurait pas besoin de toucher à la porte pour filer. Et la porte s'ouvrit. C'était celui qui leur avait expliqué ce qu'il leur fallait faire. Il s'appelait Bob. Il y eut un bruit d'électrocution et Bob s'écroula par terre, étourdi. Dzz! C'est le bruit d'électrocution. Le trio profita de ce moment pour s'enfuir, poursuivi par Bill, alias Simbad le marin, et Bob qui avait repris ses esprits. Stéphane cherchait quelque chose à leur lancer tandis qu'il montait les escaliers de la cave où ils étaient prisonniers. Il trouva. C'était une bouteille de Pepsi vide. Patrice et Jean-Philippe montèrent jusqu'en haut des escaliers à deux paliers. Stéphane était encore au premier palier. Devait-il monter ou bien attaquer Bob et Bill? S'il les attaquait, il risquait de me manquer son coup. Par contre, s'il montait, ses amis, lui, seraient encore en danger. Il fallait prendre une décision délicate, une décision pour sauver sa peau. Et la décision vint. S'agrippant à la rampe d'une main, il balança la bouteille vide de l'autre de toutes ses forces. Bob s'accrocha dedans et s'assomma au bas des escaliers, suivi de Bill qui lui tomba dessus. Ne perdant pas son temps à contempler le spectacle, Steph rejoignit ses deux amis en haut. Il se battait avec l'homme au chapeau de feutre, Tony, et celui qui leur avait apporté leur nourriture, nommé Jack. Stéphane empoigna une chaise en bois franc et la projeta au bout de la pièce, assommant net Tony. Le bandit qui restait était salement amoché. Un œil au bar noir, une grande écorchure à la joue gauche et le bras gauche en sang. Rien de bien grave cependant. Jean-Philippe l'acheva d'un direct du droit au menton. Les quatre bandits étaient hors d'usage. Le trio se préparait à sortir de cette maison. Il était trop tard. Devant eux se tenait un cinquième homme qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Cheveux roux, ras sur la tête, nez cassé, yeux féroces. Il avait tout de la brute, y compris l'arme. Debout devant la porte, dominant de son six pieds, un magnum au poing, il n'avait pas l'air d'un non-violent. Ses paroles vinrent le confirmer. « Le premier qui bouge, je l'abats comme un chien. » Une fois de plus, le piège se refermait sur eux. Vendredi, 21h32. Les bandits avaient moins fière allure. Bob avait la tête bandée, Bill une côte fêlée, Tony la tête enflée et Jack avait un œil poché, une joue et un bras écorché et un bleu sur une cuisse. Le six pieds qui les avait piégés, qui s'appelait Raoul, n'avait rien. Pas encore. La troupe partit pour une destination inconnue des prisonniers. Jean-Philippe devait rester dans cette maison car il s'était foulé un poignet dans la bataille. Il était protégé par Bill. Stéphane était donc dans la Chrysler, escorté par Bob et Raoul, tandis que Patrice suivait dans la chevette aux soins de Jack et Tony. Bob embarqua un adolescent dans la voiture au hasard et lui banda les yeux comme pour Steph et Pat. Il lui expliqua ce qu'il avait à faire. Destination inconnue, but, vol du siècle.
Je vous résume le chapitre 3. Le duo composé de Stéphane et Patrice, l'inconnu ayant été laissé dans la voiture pour une raison obscure, a profité de son incursion dans un entrepôt d'armes pour s'évader, voler la Chrysler, sauter un pont-levis, faire exploser la Chrysler... Non, ça, je peux pas le résumer. Je vous laisse entendre l'extrait.
Il y eut une énorme explosion et tous les trois tombèrent par terre. Où il y avait la Chrysler une seconde avant, s'élevait maintenant une colonne de feu. L'auto se consumait petit à petit. Il fallait fuir d'ici, fuir pour sauver sa peau.
Privé de la Chrysler, il vole ensuite une Transam noire et rouge qui explosera aussi, tout comme la Chevette. Et enfin, ils voleront une Triumph TR8 avec laquelle ils filent jusqu'à Laval pour libérer leur ami Jean-Philippe Abelli. La fascination pour les voitures.
Écoute, je pense que dans mes lectures, j'avais Bob Moran et le guide de l'auto.
Oui. Ben, ce sont par ailleurs les seuls personnages féminins de toute cette histoire.
Les voitures?
Oui. La Chevette, la Chrysler, le Baron, la Transam et la Triumph, à date, vont être pas mal les héroïnes.
Oui, j'étais encore puceau, hein. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de filles dans mon entourage.
mais les marques de voitures ne sont pas anecdotiques, quand même. Moi, ça m'a appelé beaucoup d'images, là, chez moi, ce que tu as sorti là-dedans. Dans Tromper Martine, par exemple, on est vraiment ailleurs. J'ai fait le décompte. Donc, le personnage part de chez lui avec son gros Jeep Chevrolet. Ouais. Ensuite, il va être question d'un autocar, donc transport en commun. On est déjà dans le plus responsable, d'un autobus impérial. À la fin de l'histoire, il va être de nouveau dans sa Chevrolet. Et le plus gros accident qu'il va y avoir, c'est quand il roule sur un petit chien.
Ouais.
Donc, on sent qu'il y a eu une progression, une évolution dans le genre de véhicule et le genre de destin.
Mais écoute, je sais qu'à cette époque-là, c'est visiblement le guide de l'auto parce que, ben franchement, une Triumph TR8 décapotable, j'ai aucune idée à quoi ça peut ressembler.
T'en voyais pas souvent.
J'ai aucune passion des voitures. Écoute, on a une Kia Rondo puis on l'a fait laver une fois en 2 ans. Et mais tu vois, dans Tromper Martine, je voulais une voiture. Un peu vieillotte et confortable. Mm-hmm. Tu sais, je trouvais que ça parlait beaucoup du personnage. Tu sais, il veut pas quelque chose pour flasher. Là. Donc, c'est un vieux Jeep. C'était quelque chose de solide, qui dure longtemps, mais qui est un peu usé. Tu sais. Mm-hmm. Mais non, là-dedans, ma passion des voitures, ça a duré le temps de cette nouvelle-là.
Stéphane nous l'a dit, à l'époque où il a écrit cette histoire-là, il consommait surtout de la bande dessinée, des séries télé américaines, pas tant que ça du roman, ou en tout cas, définitivement, il n'en écrivait pas à l'époque. Ce qui n'empêche pas qu'il était déjà influencé par ce qu'il vivait, lisait, observait. Il n'y a pas une expérience culturelle qui nous laisse indifférente. Que ce soit écouter une série, aller au musée, écouter un show, lire un roman, oui, mais lire une BD aussi, bien sûr. Tout ça, ça nous crée les matériaux à partir desquels on va fabriquer nos propres histoires.
Cet idiot de Tony. Hein?
Sacré Tony.
Il mérite bien ça.
Ils ont tous des noms, hein? Bob, Raoul, Tony. Et
alors, on a Tony, le mot feutre. Bill, qui ressemble à Sinbad. Sinbad, qui s'écrit avec un M parce qu'il y a un B dedans.
Ouais.
Jack.
Coudon.
Bob. Et Raoul.
Raoul, oui.
Raoul le grand roux.
On dirait que j'avais plus de nom américain court, fait que j'ai pris Raoul.
Raoul. Et puis là, il nous reste deux personnages aussi dans la gang des amis à rencontrer et trois voitures. Fait que samedi, 3 heures du matin.
Oui, c'était 3 heures pile, j'imagine, parce que
sinon,
je l'ai pas précisé. Stéphane stationnait la voiture devant le 2250 du boulevard de la Concorde, adresse indiquée par Tony. Mon ancienne adresse. En ouvrant la porte, une surprise de taille les attendait. Devant eux se tenaient debout Tony et Bill. Quelle surprise! Comment Tony avait-il fait pour arriver avant eux? Il faut dire que la Triomphe n'allait pas très vite. Bill se tenait devant eux, l'arme au poing. Il avait le regard menaçant. Steph s'accrocha au cadre de porte et balança ses jambes sur l'arme qui retomba dans les mains de Tony qui s'écria « Tu feras pas ça deux fois, mon gros mongol! » Tony n'ajusta pas son arme et tira vers Steph. La balle atteignit Bill en plein cœur. Pow, 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 pow. Tony déchargea son arme sur Bill sans le savoir. Il était rouge de colère. Quand son arme fut vide, il ouvrit les yeux. Bill! Il s'écroula net, 6 balles dans l'estomac. Tony avait repris ses esprits. Il cria en sortant son couteau à cran d'arrêt. Il n'y en a pas un qui sort d'ici vivant. Il leva son bras et retint sa respiration. Il allait le lancer vers Steph. Son couteau, pas son bras. Pow! Son couteau tomba par terre, cassé net. Stéphane avait un fusil vide à la main, une grenade de l'autre. Il enleva la goupille et balança l'explosif entre les jambes du gangster. « Filon !» hurla-t-il. Le tueur sortit de la demeure au moment où la grenade explosa, suivie d'une autre détonation. La maison est en feu. Parmi les ruines, un homme ensanglanté, Tony, tira la mitrailleuse vers eux. L'auto de Bill, une Parisienne, explosa tout près de la Triomphe. Elle fut cabossée, mais rien de bien grave. Les quatre s'entassèrent dans la TR7 et filèrent loin de cette maison, loin de Tony. Samedi, midi 37. Le petit groupe avait dormi dans la Triomphe. Les quatre dans la voiture de place, faut le faire. Il faut dire que Patrice avait dormi dans la valise ouverte. Aussitôt réveillé, Stéphane mit le moteur en marche et se mit à la recherche d'un restaurant. Ils arrêtèrent l'auto dans le stationnement d'un café nommé chez Pedro. Pedro sourit en voyant les quatre adolescents sortir de la TR7. Il se rappelait la conversation de la veille avec Tony. Pedro, c'est Tony. Écoute, il y a quatre enfants débiles dans une TR7 dans les environs. Il faut que tu les retrouves. Comment ça? Ce serait long à t'expliquer. Dis-toi seulement qu'on ne verra plus Bill, Bob et Jack, qu'ils ont sauté un pont-levis en voiture, que cet auto a explosé, qu'ils ont ensuite fait exploser deux voitures, que la maison ici est en ruine et qu'eux, ils n'ont rien. Et si je les attrape, qu'est-ce que j'en fais? Tu les flingues avec un sourire aux lèvres. Ça peut te faire plaisir. Mais-en! Samedi, midi 49. Patrice ouvrit la portière du café et les quatre silhouettes entrèrent. Alain se mit à tousser car une odeur brûlante de cigarette emplissait la salle. Il y avait 7 hommes aux tables. Steph se dirigea vers le bar suivi de ses compagnons et commanda 3 cokes. Quel beau déjeuner! C'est à ce moment que les 7 hommes se levèrent et se dirigèrent vers leurs victimes. Tous comprirent dans quel pétrin ils s'étaient foutus. Aucune issue n'était à leur portée. Tout ce qui restait à faire, c'était de se battre. Pour sauver sa peau, je me dis.
C'est sous-entendu.
Ce fut terrible quand, comme par hasard, une Jaguar modifiée rose et verte à fleurs défonça la façade de l'établissement. Le pilote freina en tournant, de sorte que la voiture était prête à repartir en sens inverse. Une porte s'ouvrit, une voix cria « Venez vite! » Ils s'engouffrèrent dans la 4 portes et Stéphane hurla de joie et d'étonnement. « Patrick Simard, qu'est-ce que tu fais ici? » Simple, je passais et j'ai vu que vous aviez des ennuis, alors j'ai volé un char et j'ai foncé. La Jaguar démarra dans des gerbes d'étincelles. La poussière de plâtre emplissait la salle. Comble de malheur, chacun des bandits avait leur voiture. Ils suivaient la Jaguar chargée de 5 personnes. La poursuite s'amorça. Ils étaient sur la route depuis 15 minutes et les gangsters gagnaient toujours sur eux. Une idée passa dans la tête à Don Pierre. Il demanda à Simard, « Peux-tu me donner la clé du coffre? » Patrick lui donna en demandant, « Qu'est-ce que tu vas faire? » Steph n'écoutait plus. Il ouvrit la portière de son côté, s'accrocha au toit et sortit. La porte fut refermée d'un coup de pied volontairement. Disons plutôt à côté pour que Stéphane puisse la ouvrir facilement. Il bloqua son pied droit sur la porte arrière et s'étira pour ouvrir le coffre à 215 km/h. Le coffre s'ouvrit. Steph se donna un élan et se balança dedans. Sans attendre, il s'empara du pneu de secours et la balança au bout de ses bras. La roue atteignit une voiture de plein fouet. Le chauffeur perdit le contrôle, heurta un autre véhicule et tous les deux tombèrent dans le fossé. Il y eut une explosion et une colonne de feu monta. Il ne restait plus que 5 poursuivants. Stéphane fouilla dans la valise. Il y trouva ce qu'il cherchait dans le coffre à outils, un chalumeau. Le fil était assez long pour se rendre dans l'allume-cigare. Il en jeta l'extrémité dans la voiture et hurla « Branche-le dans l'allume-cigarette! » Patrick obéit. Stéphane mit l'appareil en marche. La flamme maximale atteignait 40 cm. C'était parfait. Il criait encore « Ralenti! Il faut qu'il se colle à côté de nous! » « T'es fou! Ferme-toi là! » Puis obéit. C'était risqué, mais au point où ils en étaient, il fallait tout tenter pour sauver sa peau. Un gangster était près d'eux. Stéphane approcha le chalumeau près de la roue avant gauche de la voiture. La roue éclata littéralement. La voiture se souleva, fit un tonneau et alla s'écraser sur une autre voiture. Du feu, une explosion. Il ne leur restait plus que 3 ennemis à voir et après ce serait fini. Steph s'imagina couché sur son lit en train de lire un croc et se demanda s'il aurait l'occasion de le faire encore. Mais pour l'instant, il y avait d'autres choses à faire. Stéphane s'appuya à la porte droite arrière et referma la valise. Il ouvrit ensuite la porte avant et pénétra dans la voiture, couvert par les acclamations de ses amis. Entre-temps, une autre voiture s'était collée sur eux du côté à Simard. Il essaya de s'emparer du chalumeau, mais le bandit lui tira une balle à l'épaule gauche. Il échangea de place au volant avec Steph, car son épaule le faisait souffrir. Don Pierre s'empara du chalumeau et embrasa le banc avant de l'auto. L'homme ne tira plus, son fusil étant vide. Il appuya sur l'accélérateur et alla se braquer devant la Jaguar. Il dut placer une brique sur l'accélérateur car il sautait en marche et l'auto était toujours à fond. Bilan, une auto en feu en avant, une à droite et une derrière. Il ne pouvait pas aller à gauche car il y avait un fossé. L'auto en avant d'eux allait exploser d'une seconde à l'autre. S'ils stoppaient, ils emboutiraient la voiture derrière eux. Stéphane ne pouvait pas se rendre. S'il se rendait, il serait abattu froidement par Tony ainsi que ses amis. Une sueur froide lui passa dans le dos. La conversation menait bon train dans la voiture. « On est foutus. »« Steph, abandonne. On est foutus de toute façon. »« Il n'y a personne qui sort d'ici vivant, je suis sûr. »« Ok, fermez-la, ma gang de stupides, » grogna Steph. Il fallait trouver le moyen de dépasser la voiture devant eux. Mais comment? Par la droite? Non. La gauche? Non plus. Par-dessous? Irréalisable. Mais par-dessus? Par-dessus, c'était la solution. Steph voulait faire un truc qu'il avait vu à la télé. Probablement dans Chips. Se mettre sur deux roues. Stéphane savait exactement comment faire. Encore fallait-il le faire, mais il fallait réussir. Réussir pour sauver sa peau. Petit shooter à tout le monde à chaque fois que je dis pour sauver sa peau. Il donna un violent coup de roue vers la droite et remit aussitôt les roues droites. La voiture s'était soulevée et avançait. Stéphane hurla, surtout ne bougez pas. L'auto en flamme passa sous la Jaguar. Au moment où la Jaguar retombait, la voiture éclata et fit éclater les deux autres voitures. Boum, bam, bow. Dans la Jaguar, il y eut une explosion de cris de joie. Je savais qu'on s'en sortirait. Youpi, all right. Personne ne vit arriver le poteau électrique arriver. Il était sur le bord de la route et l'auto arrivait direct dessus. Steph le vit au dernier moment. Il freina, mais l'auto l'atteignit quand même sur le côté et prit feu. Il y eut une détonation et ce fut soudain le néant. Épilogue. Lundi, 10h du matin. La chambre d'hôpital était pleine. Il y avait 5 lits, ils étaient tous occupés. Le bilan. Steph, un bras et une jambe cassée. Patrice, un bras, le nez, un poignet. Jean-Philippe, un poignet, 3 côtes et 1 pied. Alain, une clavicule, un genou et 1 doigt. Patrick, 2 bras, 1 jambe, 4 côtes et 3 doigts. C'était un bon score. Ils en avaient pour un mois au moins. Steph se consola en disant qu'ils avaient démantelé une bande à eux seuls. En effet, la veille, la police avait fait irruption chez Pedro. Elle avait coincé tout le reste de la bande, sauf Tony. Stéphane interrompit ses pensées en voyant l'infirmière arriver avec des fleurs à la main. « C'est pour vous tous. Il y a une carte avec. Ça dit « Prompt rétablissement » et merci d'avoir démantibilé la gang dont je faisais partie. Je ne pouvais pas en sortir de moi-même. Il m'aurait descendu. Merci encore. » Et c'était signé Tony. Les cinq partirent à rire malgré la douleur occasionnée par leurs blessures. Ils s'endormirent, sourire aux lèvres.
Et là, c'était là. Stéphane Dompierre, Patrice Dufour, Jean-Philippe Abelli, Alain Sallois, Patrick Simard dans « Pour sauver sa peau ».
Écoute, c'est... Non, c'est du beau travail.
Tout est ficelé là-dedans. Il y a deux, trois trucs que je me dis que tu aurais fait différemment aujourd'hui.
On s'entend, c'est écrit à la main sur des feuilles mobiles et les dessins sont intégrés au texte. Donc, t'as pas de place à l'erreur.
Non. Et c'est réussi. Tout le monde garde la même couleur de cheveux du début à la fin de l'histoire.
Exactement.
La cohérence est là. Il y a l'usage des adverbes. Je sais que t'aurais pas fait ça comme ça aujourd'hui. Littéralement, deux fois. Le pneu qui éclate littéralement.
Ouais. Je me demande comment il aurait pu ne pas éclater littéralement.
L'éclate figurativement.
Ouais. Éclate poétiquement.
Poétiquement.
Il y a beaucoup de choses que je couperais.
Mais si tu avais pu parler à jeune Stéphane, je pense que tu lui aurais dit de moins expliquer la passe de la brique sur l'accélérateur quand tu vas sauter par-dessus, ou à quel point le pied est coincé dans la porte pour se rendre au coffre, la main qui se rend.
Ouais.
Des fois, en dire trop.
Ben, j'y aurais dit aussi, pour une nouvelle de 20 pages, incluant les dessins, 5 méchants, 5 bons, ça commence à faire beaucoup. Je sais bien que tu veux plugger tous tes amis dans ta nouvelle, là, mais...
C'est clair qu'Alain Sallois et Patrick Simard, ils ont entendu parler de ton projet Ami Parcours, ils ont dit hey, « on est-tu là-dedans? »
Ah, t'as
dit
« non? » Je pense que, heureusement, j'ai perdu l'habitude de vouloir intégrer tous les lecteurs potentiels de mes textes dans le texte. Mais tu sais, le pire, c'est que c'est probablement que le prof m'avait dit « vous avez un texte de 4 pages à écrire pour lundi prochain. » Puis moi, j'étais du genre à faire 25 pages. J'ai vraiment...
Et le pire, c'est que t'as pas dû perdre beaucoup plus de points sur l'orthographe que les autres personnes de ta classe, parce que j'ai vu les petits traits soulignés. Ouais. Et du bon usage des guillemets aussi, parce qu'à chaque fois que tu dis un mot québécisant, genre « toi » ou «
j'ai
gros
pas compris
mongol »,
il y a comme une page en joual, puis il y en a juste une, en fait. Je sais pas pourquoi. J'ai eu ma période de joual, puis ça s'est terminé au bout d'une page.
C'est là que ça s'est exprimé.
Ça a été court.
Mais non, moi, je trouve qu'il y a eu des gros pas pour clarifier tes histoires.
Ouais. Mais je pense que j'étais inquiet aussi de que les gens comprennent pas pourquoi le titre était là.
Ah oui!
Fait que je l'ai mis souvent, tu sais, c'est...
Mais ça, en même temps, moi, je t'ai déjà entendu dire, autant dans ton travail avec des auteurs en tant que directeur littéraire, que pour tes propres œuvres, le titre est dans le texte.
Ouais.
Et là, je pense que si tu n'avais pas choisi pour sauver sa peau, tu serais passé à côté.
Non, c'est ça.
Parce qu'il est là trois fois.
C'est ça.
C'est vraiment
un bon titre.
Merci Stéphane d'avoir partagé avec nous
merci
pour sauver sa peau. Un début fort prometteur qui nous a permis de nous rendre quelque part. Ton plus récent roman, c'est Tromper Martine, paru aux éditions Québec-Amérique en 2016. Tu es aussi directeur littéraire de la collection La Chope.
Oui.
Qui a publié à ce jour un roman de Stéphanie Boulay, À l'abri des hommes et des choses. Et... très, très prochainement, un premier roman de Éric Saint-Pierre, Comment écrire un best-seller.
Oui.
Est-ce que tu as travaillé ça un petit peu de la même façon au niveau de l'explosion?
Oui, Éric, je lui ai demandé d'enlever toutes ces onomatopées. Là. Il y avait des bing-bang-pouf, puis j'ai dit non, fais pas ça, Éric.
Puis l'auto n'explose pas dans le récit de Stéphanie.
Non, c'est ça, oui. C'est ça, Stéphanie, il y avait beaucoup de voitures qui explosaient. J'ai dit non. Stéphanie, il faut arrêter ça. C'est futile et adolescent.
Mais de l'importance d'avoir un directeur littéraire.
Exactement.
Merci Stéphane.
Ça me fait plaisir.
Surf Rock! Les intrigues de Stéphane tournent beaucoup moins autour des explosions de voitures aujourd'hui. Mais les rebondissements, ça, il maîtrise toujours. Je pense entre autres à une fuite en pleine nuit d'un appartement espagnol réalisé en sautant d'un balcon à l'autre,
qui se finit pas terriblement bien pour le héros, mais qui réussit à lui éviter une rencontre avec un copain jaloux quand même. Quant à sa sensibilité graphique, en tant qu'éditrice qui lui ait proposé des centaines de polices typographiques pour chacune de ses récentes couvertures, je peux vous dire que la flamme est toujours vive. Elle lui a d'ailleurs mérité un prix Alcuin récompensant couverture, grille graphique, choix de typographie, matériaux de couverture et tout le tout-y pour le premier titre de sa collection La Chope, À l'abri des hommes et des choses de Stéphanie Boulay. Comme quoi, il y a toutes sortes de chemins pour arriver à la littérature et en faire de la belle. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous avez entendu des extraits de Pour sauver sa peau, une œuvre de jeunesse de Stéphane Dompierre. J'ai aussi discuté avec lui de ses romans Trompé Martine, Mal élevé, Un petit pas pour l'homme. On a abordé Morlante, mais si vous voulez en savoir plus sur tous ces romans, il va falloir que vous consultiez la fiche de l'auteur sur le site de Québec Amérique. Le thème musical de l'émission est l'œuvre d'Adriana Crickle et les autres pièces que vous avez entendues sont des compositions de David Setsai. À la technique, mon collègue Philippe Collard. Faut bien commencer quelque part est une production des éditions Québec-Amérique et est enregistrée devant public à notre café littéraire, chez l'éditeur, situé sur la rue Saint-Hubert, à Montréal. Consultez la page du café sur Facebook pour connaître la date et le thème de notre prochaine émission. Et préparez-vous à venir nous lire vos propres textes de jeunesse.
Salut, je m'appelle Nathaniel. Je viens vous présenter un café qui s'appelle Chez l'éditeur. C'est un endroit où on peut prendre un café, un chocolat chaud, une soupe. Mais bon, moi j'aime mieux les biscuits et les chaussons aux pommes. C'est un endroit où on peut regarder et même acheter des livres. On peut même croiser des écrivains et des éditeurs. On peut aussi assister à des ateliers, des conférences et même des rencontres avec les auteurs. L'adresse est le 7240 rue Saint-Hubert à Montréal et les heures d'ouverture sont dès 7h la semaine et 9h la fin de semaine. Merci de m'avoir écouté. Bye!